À ce moment, deux soldats entrèrent chargés de bois et de fagots et allumèrent le feu. Dès qu'ils furent sortis, Marguerite avidement vint tendre les mains aux flammes qui s'élevaient couleur de géranium sous la grande hotte de pierre. Elle demeura silencieuse quelques instants, se laissant pénétrer du bienfait de la chaleur. « Eh bien, » dit-elle enfin avec un soupir, « qu'il demande l'annulation ? Qui puis-je ?
Mais ma cousine, vous y pouvez beaucoup, justement, et l'on est prêt à vous savoir gré de quelques paroles qui ne vous coûteraient guère. Il se trouve que l'adultère n'est point motif d'annulation. C'est absurde, mais c'est ainsi. Vous pourriez avoir eu 100 amants au lieu d'un, et même être allé vous rouler en Bordeaux. Vous n'en seriez pas moins toujours indissolublement marié à l'homme auquel vous êtes uni par devant Dieu. Interrogez le chapelain, ou qui vous plaira. Moi-même, je me suis fait expliquer ces choses, car je ne suis guère savant en droit canon. Un mariage ne se rompt point. Et si l'on veut le casser, il faut prouver qu'il y avait empêchement à ce qu'il fût contracté, ou bien encore qu'il n'a pas été consommé. Vous suivez mon propos ?
Oui, oui, je vous entends, dit Marguerite.
Alors, voici, reprit le géant, ce que Monseigneur de Valois a imaginé pour tirer Louis d'affaire.
Il prit un temps, se racla la gorge.
Vous acceptez de reconnaître que votre fille Jeanne n'est point de Louis ? Vous reconnaissez que vous vous êtes toujours refusé de corps à votre époux et qu'ainsi il n'y a pas eu vraiment mariage. Vous déclarez cela tout benoîtement devant moi et devant votre chapelain qui contresigne. On trouvera sans peine parmi vos anciens serviteurs ou familiers quelques témoins de complaisance pour certifier la chose. De la sorte, le lien ne peut plus être défendu et l'annulation va de soi.
Et que m'offre-t-on en échange ?
En échange ? Répéta d'Artois. « En échange, ma bonne cousine, on vous offre d'être conduite dans quelque couvent du duché de Bourgogne, jusqu'à ce que l'annulation soit prononcée, et ensuite de vivre comme il vous siéra, ou comme il siéra à votre famille. »
Dans le premier mouvement, Marguerite faillit répondre « J'accepte, je déclare et signe tout ce qu'on veut, à condition que je sorte d'ici. » Mais elle vit d'Artois qui l'épiait, paupières mi-closes sur ses yeux gris, avec une dureté fort peu accordée au ton débonnaire qu'il s'efforçait de prendre. « Je vais signer, » pensa-t-elle, « et ensuite, on me maintiendra en geôle. » Puisqu'on venait lui proposer un marché, on avait besoin d'elle. « C'est vouloir me faire professer un gros mensonge ?» dit-elle. D'Artois éclata de rire.
« Hé là, ma cousine, vous en avez professé quelques autres, il me semble, et sans trop de scrupules.
Il se peut que j'aie changé et me sois repenti. Il me faut réfléchir avant de décider. »
Robert d'Artois fit une curieuse grimace, tordant les lèvres de droite à gauche. « Soit, dit-il, mais réfléchissez vite, car je dois être à Paris le matin d'après-demain pour la grand-messe de funérailles du roi Philippe à Notre-Dame. 23 lieues à me caler dans les bottes, avec ces chemins où l'on enfonce de 2 pouces dans la crotte, le jour qui tombe tôt et se lève tard. Je ne puis guère muser. Je m'en vais dormir 1 heure et vous viendrez retrouver pour manger avec vous. Et il ne sera pas dit que je vous laisserai seule, ma cousine, le premier jour où vous ferez bonne chère. Vous aurez décidé comme il faut, j'en suis sûr. »
Il sortit vivement et manqua de renverser dans l'escalier l'archer Gros Guillaume qui montait, suant et courbé, sous un énorme coffre. D'autres meubles s'entassaient au bas des marches. D'Artois s'engouffra dans le logement dévasté du capitaine de forteresse et se jeta sur la seule couche qui y resta.
« Bien humé, mon ami, que le dîner soit prêt dans 1 heure, dit-il. Et appelle mon valet Lormet, qui doit être parmi les écuyers, pour qu'il vienne veiller mon sommeil. »
Car ce colosse ne craignait rien, sinon de s'offrir sans défense à ses ennemis pendant qu'il dormait. Et à tout varlet ou bachelier, il préférait comme garde le serviteur trapu, carré, grisonnant, qui le suivait partout et le servait en tout, aussi habile à le pourvoir de filles qu'à poignarder silencieusement un gêneur si quelque affaire tournait mal dans une taverne. Avec cela malicieux, mais jouant à merveille les niais, et d'autant plus dangereux qu'il ne payait pas de mine, Lormet était un espion excellent. Quand on lui demandait ce qu'il attachait si fort à Monseigneur Robert, le bonhomme, ses joues rondes traversées d'un sourire auquel manquaient 3 dents, répondait «
C'est parce que dans chacun de ces vieux manteaux, je peux m'en tailler 2 ».
Dès que Lormet fut entré, Robert ferma les yeux et s'endormit dans l'instant, bras ouverts, pieds écartés, le ventre soulevé d'un bon souffle d'ogre. Lormet s'assit sur un tabouret, sa dague posée en travers des genoux, et se mit en surveillance devant le sommeil du géant. Une heure plus tard, Robert d'Artois s'éveilla de lui-même, s'étira comme un gros tigre et se dressa, reposé de muscles et frais d'esprit. « À toi d'aller dormir maintenant, mon bon Lormet, » dit-il. « Mais auparavant va me quérir le chapelain. »